Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Est-ce que vivre une existence à 100 000 volts rend forcément heureux? Pourquoi nos sociétés valorisent-elles les vies intenses, les expériences puissantes, denses, fortes, celles qui donnent le sentiment que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Bref, pourquoi l'intensité est-elle devenue une obsession de nos sociétés, une valeur suprême de notre culture hédoniste? Pour nous éclairer aujourd'hui, les philosophes Tristan Garcia et Frédéric Schifter, ainsi que la journaliste Christy Lapelle-Edouel, mes complices aujourd'hui, Guillemette Odissino et Éric Libio de L'Express. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour à tous nos invités. Bonjour Tristan Garcia.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, philosophe, maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3. Prix du Livre Inter en 2016. Vous êtes l'un des penseurs les plus brillants de sa génération, pour parler comme Michel Drucker. Et vous avez notamment publié dans votre bibliographie éclectique « La vie intense, une obsession moderne en poche et autrement ». Bonjour Frédéric Schifter. Comment bon. Allez-vous en duplex de Bayonne, France Bleu Bayonne? Vous êtes écrivain, philosophe, sans qualité si l'on en croit votre site, ce qui est évidemment faux. Et on vous doit notamment votre petite philosophie du surf, indispensable, même quand on n'y connaît strictement rien à ce sport, ou encore le dictionnaire chic de philosophie. Et avec nous également, Christy Lapelle-Edouel, bonjour.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine, qui fait partie de la famille. Tristan Garcia, quelle est votre définition de l'intensité? Le petit Robert de la langue française nous dit que c'est le degré d'activité, de force, de puissance, caractère de ce qui est intense, synonyme puissance, force.
C'est difficile d'avoir une définition précise de l'intensité, alors que c'est en fait un des termes les plus répandus, très simplement, de manière très intuitive. La publicité aujourd'hui parle le langage de l'intensité, par exemple. Tout le monde sait que ce qui nous est promis, c'est, je sais pas, du chocolat intense, de la vodka intense. C'est quelque chose, si on en fait la généalogie, qui est en fait assez récent. Dans le langage publicitaire, c'est apparu probablement autour des parcs d'attractions. On a commencé à vendre des expériences intenses à Coney Island, par exemple. Donc tout le monde a l'impression de savoir à peu près ce que signifie ce terme. Donc une expérience forte. On l'emploie aussi par une sorte d'anglicisme maintenant, de plus en plus, à propos d'une personne. C'est quelqu'un de très intense. C'est un anglicisme, hein, c'est pas français. Mon hypothèse, pour essayer de comprendre ce que c'est, c'est que l'émergence de ce terme, qui en fait n'est pas évident, parce que vous n'auriez pas pu dire ce terme à un homme du Moyen-Âge ou un homme de l'Antiquité. C'est un terme qui n'aurait eu un sens que pour des philosophes scolastiques, des logiciens. C'est un terme très très technique. C'était pas du tout un terme commun. C'est que la démocratisation de ce terme, elle est liée à un modèle qui rend, je crois, le terme assez intuitif, c'est l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, intensité égale courant électrique. Donc quand on a voulu concevoir notre vie, notre existence sur le modèle moderne du courant électrique, de l'électricité, on a commencé à dire et à promettre que ça pourrait être de plus en plus intense.
Tout au long de la journée, tout au long de notre vie, on nous promet sans cesse de vivre des choses intenses dans tous les domaines de notre vie. Et ce besoin d'intensité peut prendre des formes très variables.
Alors, cette promesse d'intensité, elle monte dans les sociétés européennes, dans les sociétés occidentales. On la repère dès le XVIIIe siècle, hein, chez des philosophes des Lumières, mais elle devient vraiment... très profondément lié à la société consumériste, à la société néolibérale. Je crois, autre hypothèse aussi, même si c'est un peu grossier, que on pourrait dire, à partir du moment où une société n'est plus capable de promettre à des individus une autre vie, où elle se laïcise, c'est-à-dire elle ne promet pas qu'après la mort, vous vivrez une autre vie, une vie meilleure, ou vous allez ressusciter, si on n'est plus capable de promettre autre chose, une autre vie, on promet plus de la même chose. Donc en fait, ce sont des sociétés laïcisées qui renoncent à promettre le salut, hein, la rédemption aux individus, et quand la société ne peut pas promettre aux individus un salut hypothétique, elle leur promet de maximiser ce qu'ils ont déjà. Et qu'est-ce qu'on a déjà ? On a des corps avec des sensations. Donc ce que la société promet, c'est plus de votre corps et plus de vos sensations. Donc vous allez pouvoir acheter des sensations plus fortes, donc un goût plus intense, mais aussi, hein, par exemple, un érotisme plus intense, hein, une libido plus intense, etc.
Ce besoin d'intensité peut prendre des formes très variables. Quand on s'autorise une pointe de vitesse sur la route, quand on saute à l'élastique, quand on vit une histoire d'amour passionné, quand on discute vivement entre amis, quand on va manifester en gilet jaune le samedi, c'est très divers tout au long de la journée, tout au long de notre vie.
Oui, parce qu'une des grandes forces de ce terme, c'est que c'est un terme qui est capable de toutes les métamorphoses. À peu près n'importe quoi peut être intense à partir du moment où on essaye plus ou moins de le quantifier. Dès qu'on essaye de mesurer quelque chose, on peut promettre l'intensification de cette chose. Donc ça peut être en effet une expérience amoureuse, mais ça peut être aussi quelque chose qui concerne la sphère professionnelle, donc aussi bien le monde professionnel que la sphère amoureuse, que à peu près toutes les diverses vies de l'individu libéral contemporain peuvent être intensifiées de ce point de vue-là, mais aussi en effet ces expériences politiques. Ou... Et c'est la grande force, et en même temps c'est la faiblesse de cette idée, c'est que c'est au fond une idée sans contenu.
Alors toutes ces excitations, ces intensités sont censées nous sortir de la monotonie de notre quotidien. Une vie intense est censée réveiller, revitaliser des vies routinières confortablement installées.
Il y a une grande peur au XVIIIe siècle, on la voit chez des penseurs, et un penseur qui s'appelle Edmund Burke par exemple, qui malheureusement un nom qui ne sonne pas très bien, qui est un des modèles de Kant, et une des grandes peurs de ces penseurs, c'est la fatigue musculaire et nerveuse de l'homme moderne. C'est l'idée en gros, si on résume, que l'homme moderne va faire l'expérience de plus en plus de choses, va être bombardé d'expériences sensorielles, de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations. Mais que le problème de l'expérience, c'est que l'expérience, ça suppose de répéter les choses. C'est-à-dire que la première chose, on est étonné, on est saisi, on est captivé par... La deuxième fois, on connaît un peu plus la chose, donc l'impression est un peu moins forte. La troisième fois, arrive l'habitude. La quatrième, la routine. Et il y a cette espèce de spectre qui naît chez ces penseurs, d'une sorte de routinisation de la vie d'un individu moderne soumis à de plus en plus d'expériences fortes, mais des expériences fortes, c'est le paradoxe, qui, à force d'être répétées, vont s'affaiblir. Et donc, il y a l'impression que la grande peur de l'individu moderne, c'est cette fatigue, c'est cette espèce d'effondrement de son sentiment vital, de son sentiment musculaire et nerveux d'être vivant. Et c'est là qu'arrive, comme une sorte de secours, l'intensité existentielle. L'intensité est là pour réveiller, pour donner une sorte de sursaut à un individu toujours sur le point de s'effondrer, de se fatiguer, de s'endormir nerveusement.
Il y a un objet qui symbolise un peu notre obsession de l'intensité, ce sont les montres connectées, les bracelets connectés.
Ben oui, parce que le paradoxe, c'est que l'intensité, c'est la promesse de quelque chose de quasiment inquantifiable. Mais en même temps, pour que vous puissiez parler de l'intensité de quelque chose, il faut pouvoir le mesurer. Si vous ne mesurez pas quelque chose, vous ne pouvez pas promettre que vous allez l'augmenter. Et donc, pour ça, il faut des instruments de mesure. Et vous avez un mouvement clairement dans le monde contemporain, où on va pénétrer de plus en plus loin dans l'individu pour mesurer son rythme cardiaque, pour mesurer... La qualité de son sommeil, etc. Évidemment, ça va donner aussi du big data, c'est quelque chose qui va être marchandisé et qui a un intérêt économique. Mais aussi, c'est aussi quelque chose qui permet d'aller mesurer des choses qui, normalement, sont des signes de l'intensité vitale de l'individu. Sauf qu'une des conséquences de ça, c'est qu'on dépossède aussi l'individu du savoir quant à sa santé et quant à son sentiment de sa propre vie. C'est-à-dire qu'on va quantifier, avec des données, on va quantifier un certain nombre de données qui concernent la vie intime de l'individu, et on l'en dépossède d'une certaine manière. Et je crois qu'en réaction à ça, plus on pénètre loin dans l'individu pour aller chercher comme ça des données sur sa vie, plus l'individu est obligé de se construire une sorte de forteresse en disant « il y a quelque chose qui n'appartient qu'à moi, que je suis seul à pouvoir mesurer, c'est le sentiment que j'ai de ma propre vie, de ma vitalité ». Ce sentiment, il peut diminuer, je déprime, je deviens dépressif, ou il peut augmenter, il peut s'hystériser. Mais c'est quelque chose que je suis seul à posséder de moi-même. C'est pas quelque chose que la médecine va pouvoir mesurer, va pouvoir calculer. Ça m'a pas. Il y a quelque chose de moi qui n'appartient qu'à moi, c'est mon sentiment de moi-même. Et c'est ce sentiment qui devrait être intensifié, mais menace tendanciellement de s'effondrer.
Frédéric Schifter, je ne vous vois pas apporter un bracelet connecté. Vous qui pratiquez avec ardeur la paresse, une certaine forme de paresse, quel regard posez-vous sur notre obsession de l'intensité, que ce soit devenu une valeur suprême de nos sociétés ?
Moi, l'intensité, ça me rappelle un slogan de mai 68 qui était écrit sur les murs par les situationnistes ou leurs admirateurs. Et ce slogan disait « vivre sans temps mort et jouir sans entrave ». Et alors, ces révolutionnaires de l'époque ne se rendaient pas compte qu'en réalité, ils étaient en train d'inscrire en toutes lettres le programme du libéralisme le plus totalitaire. Parce qu'en réalité, ce que et Tristan Garcia vient de le dire d'une certaine façon, c'est que le système attend des individus. Alors système, je suis désolé. Enfin, disons le système libéral attend des gens qui soient motivés, qu'ils augmentent leur puissance d'être, leur conatus, comme dirait Spinoza, mais que ce conatus, cette espèce de persévérance dans l'être, soit mis au service de la performance dans le travail, enfin essentiellement dans le travail, bien évidemment. Et donc, il s'agit effectivement de vivre son temps mort, le travail, et de jouir sans entrave du travail. Et en réalité, effectivement, on assiste à une dépossession totale de la vie des gens, et qui, c'est un comble, pour se désaliéner, enfin pensant se désaliéner de cette dépossession, vont s'aliéner dans une autre forme d'intensité que sont les loisirs. Alors là, ils ont à leur disposition tout un panel de loisirs dans lesquels on leur demande aussi d'intensifier leur existence. Donc finalement, au bout du compte, ils arrivent au bout du rouleau, quoi, très vite. Et c'est une sorte de folie totale qui emporte les individus de l'époque.
Guillemette Odissino.
Oui, parce que c'est intéressant. Il y a l'intensité au moment, enfin, ou un parfum intense, chocolat intense et tout, mais il y a l'intensité groupée. C'est-à-dire, en fait, cette société aussi, elle nous sollicite tellement qu'elle nous met dans une situation de ne plus pouvoir choisir. Donc, en fait, on est obligé on se sent obligé de tout faire. Donc, en fait, cette intensité, elle est aussi créée par l'agglomération comme ça d'activités. On doit travailler très très fort, en même temps on doit être de grands amoureux, en même temps on doit avoir de superbes loisirs, en même temps, même quand on s'intéresse à soi et qu'on se replie sur soi, on doit faire intensément un retour sur soi-même. Enfin, en fait, c'est une espèce de ça n'arrête jamais, quoi. Ça n'arrête jamais.
Tristan Garcia.
Oui, tout à fait, et ça correspond, c'est ce que disait Frédéric Schifter, ça correspond très nettement au passage dans les années 70, puisqu'il citait un slogan de mai 68, au passage dans les années 70 à quelque chose qui a beaucoup été étudié, qui est le passage d'un capitalisme, disons, des biens matériels, où la principale promesse qui était faite aux gens de l'après-guerre, aux classes moyennes montantes de l'après-guerre, c'était de posséder des choses, des biens qui allaient de l'électroménager, etc., au moment où 68 a marqué ça aussi, où ça ne suffisait plus comme promesse de vie, et on est passé à un capitalisme des expériences. C'est-à-dire que ce qui est vendu principalement, plus que des biens matériels, ce sont des expériences de vie. Et évidemment, en vendant des expériences de vie, on vend aussi une sorte d'expansion à l'intérieur d'une vie finie, des bornes d'une vie. Vous savez, il y a l'idée, le capitalisme fonctionne que par extension de marché. Mais si votre marché, c'est la vie d'un individu, il faut enfoncer des coins pour essayer de rentrer dans tout ce qui est disponible. Et pour prendre juste un exemple qui est très net, par exemple, puisqu'on parle souvent de séries télévisées ici, si vous écoutez le discours industriel, par exemple, de gens de Netflix aujourd'hui ou d'Amazon, ce qu'ils vous disent très clairement, c'est que leur but, c'est de s'insérer dans les temps morts, les quelques temps morts qui restent dans la vie d'un individu. Donc, ils vont essayer de changer leur format pour s'adapter, par exemple, au temps de transport. Donc, essayer de faire en sorte que ce qui reste du temps de transport où vous êtes inactif, où justement, il y a un sentiment de relâchement de votre vacuité, de vide, de votre être qui pourrait ouvrir à la contemplation ou à l'ennui, etc.
Oui, vous pouvez regarder vite fait une mini-série.
Et ce que vous dites correspond au fait que c'est la vie de l'individu qui a un marché lui-même.
Chrissy Lapelle-Edouelle.
Oui, c'est assez terrifiant, mais vous le disiez à l'instant, l'intensité contient en elle-même sa propre destruction. C'est-à-dire qu'aucune intensité, évidemment, n'est faite pour durer, par définition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit, c'est l'effondrement. Enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas être intense en permanence, on ne peut pas vivre intensément en permanence. Donc, la suite, c'est l'effondrement, le burn-out dont vous avez parlé, et la dépression. Voilà. Et on a le sentiment qu'on vit, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure hors antenne, mais qu'on vit dans une société de la maniaco-dépression. C'est-à-dire qu'on passe sans cesse d'une intensité extrême, des pics d'intensité, à l'effondrement, à la peur du vide, à l'angoisse existentielle du rien. Quoi. Il faut remplir, remplir, remplir.
Et c'est là, je crois, que s'ouvre un troisième âge, qui est un âge où un autre marché s'est ouvert, on en discutait aussi, qui est un marché où ce qu'on vend aux individus, c'est une solution pour essayer d'aplanir, de neutraliser leurs intensités. Et c'est un marché soit des sagesses, soit un marché de la méditation, des disciplines de l'esprit orientale, etc. Mais aussi, tout simplement, le marché des antidépresseurs, le marché de l'anesthésie de l'être, qui est, et qui va ensemble, en fait. C'est parce que...
Et les addictions.
Voilà. C'est parce qu'une intensité n'est pas soutenable infiniment par un corps fini et produit des effondrements que s'ouvre un deuxième marché pour essayer de soutenir des individus qui sont sinon au bord de l'effondrement.
Une vie intense rend-elle forcément heureux ? Élément de réponse avec les philosophes Tristan Garcia et Frédéric Schifter et avec la journaliste Christina Pelliduel. Alexia Rivière, Alexia Lacour et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove et c'est réalisé par Stéphanie Texier. Diana Ross interprétait Love Hangover.
Grand bien vous fasse.
Allez, on est sur.
Non, mais je suis annulée, vous allez vous reposer là.
Je me reposerai quand je serai mort. On y va, j'ai dit.
Sur France Inter.
On s'intéresse à l'obsession de l'intensité qui frappe nos sociétés avec les philosophes Tristan Garcia et Frédéric Schifter et la journaliste Christina Pelliduel. Écoutons Fanny Ardant, ça ne peut pas faire de mal.
Il y avait des conversations où on cherchait, on me disait qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureuse. On parlait du bonheur, vous savez, quand on était étudiant, puis après, quand on commençait à connaître l'amour et tout. Et moi, je disais, je veux l'intensité. Ça me faisait rien si la vie m'envoyait des chagrins. Que je préférais avoir une vie intense que la petite maison dans la prairie. Je crois que j'ai vraiment vécu et que j'ai toujours pensé la même chose, qu'on n'avait qu'une vie, qu'il fallait pas aimer à moitié, qu'il fallait pas pleurer à moitié, qu'il fallait pas vouloir mourir à moitié.
Fanny Ardant, 2017, Tristan Garcia, vous qui avez publié La vie intense.
Je connaissais pas cette intervention de Fanny Ardant. D'abord, il faut distinguer entre un projet individuel, c'est son cas, enfin, un désir de vie individuel et un programme social. Mmh. C'est de quoi on parlait, c'est d'une programmation de la société, d'abord de la société européenne, puis des sociétés occidentales, et en particulier libérales, consuméristes. C'est pas la même chose de vouloir vivre intensément soi-même et de recevoir des injonctions à vivre intensément de la part de la société.
Et la société peut nous envoyer des injonctions, c'est-à-dire qu'un amour vraiment, enfin, véritable, c'est un amour intense.
Oui, la question, le problème avec ce terme, on commençait juste à le dire, là où il est très délicat, où il faut faire un usage très délicat dans sa vie, c'est que comme il porte en lui une sorte de logique d'auto-neutralisation, plus on s'en revendique, plus on risque de le perdre. Hein, il y a quelque chose d'un peu magique avec l'intensité qui est que, au fond, on l'éprouve le plus fort quand on n'a pas besoin de la chercher, quand on n'a pas besoin de la nommer. Un des problèmes, en fait, qui est dans l'idée même d'intensité, c'est que l'intensité, c'est censé, puisqu'on se demandait ce que c'est, comment le définir au début, l'intensité, c'est censé mesurer ce qui n'est pas mesurable. C'est la mesure de ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est la mesure de ce qui excède la quantification. On ne peut pas dire exactement j'ai tant de degrés de bonheur, etc. Donc, le problème, c'est que comme c'est censé mesurer le non-mesurable, ce qui échappe à la mesure, ce qui échappe au nombre, ce qui échappe à la quantité, dès qu'on commence à l'identifier, dès qu'on commence à un peu trop en parler, à un peu trop le nommer, justement, ça commence à se neutraliser parce que qu'est-ce qu'on fait ? On commence à l'identifier. Et en l'identifiant, on commence déjà un petit peu à le quantifier, justement. Donc, ça peut surgir que par des moments de grâce, comme c'est sans doute le cas avec Fanny Ardant. Et là où l'intensité est la plus forte, toujours, c'est dans des expériences uniques. C'est-à-dire, quand quelque chose n'a lieu qu'une fois, quand quelque chose n'est dit qu'une fois, quand quelque chose n'est vécu qu'une fois, la force, c'est que ça devient forcément absolu. On peut pas le mesurer parce qu'on peut pas comparer. Dès que quelque chose est répété, on peut le comparer, on peut le mesurer et l'intensité commence déjà à se dégrader un petit peu.
Le domaine de l'amour, c'est celui où l'on recherche le plus l'intensité. Nous attendons, par exemple, le coup de foudre et nous redoutons le chagrin d'amour.
C'est là aussi une invention récente. Ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'on le sait bien, c'est une construction sociale, c'est une construction historique. Vous avez parlé de coup de foudre. C'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire la généalogie et là, c'est très net dans le livre. Je rappelle une expérience qui est une expérience de salon qui a beaucoup fasciné les gens en Allemagne à Leipzig, qu'on appelle parfois le baiser de Leipzig, par lequel au tout début de l'électricité, quand le courant était électrique, était encore quelque chose de magique, il y avait une expérience qui était payante où on prenait une jeune femme très belle, un peu éthérée, et en fait elle cachait sous sa robe le fait qu'elle tenait, c'était sans doute très dangereux, des fils électriques. Et on demandait à un jeune homme de s'approcher et de l'embrasser. Et au moment où il approchait ses lèvres, des lèvres de la jeune fille, il y avait du courant électrique qui surgissait. Donc c'était vraiment le coup de foudre. C'est lié en fait à l'expression même. Et il y avait l'impression que l'intensité amoureuse, la libido, le désir était matérialisé par l'électricité. Et d'ailleurs, vous avez même au XVIIIe siècle plein d'explications de la sexualité par le courant électrique. L'idée qu'on va pouvoir matériellement expliquer ce qui se passe, en fait, d'immatériel dans la libido, dans le désir, par l'électricité. Donc le coup de foudre, on a pensé qu'il était matériel au début. Tout ça pour dire que, oui, évidemment, l'intensité amoureuse, elle est liée à cette image, mais c'est une construction, c'est une construction récente.
Guillemette Audicino.
Mais moi, ce que je trouvais intéressant dans les si beaux propos de Fanny Ardant, c'est qu'elle n'exclut pas du tout la douleur et le chagrin. C'est-à-dire que l'intensité, enfin quand même, si on doit la défendre un peu, c'est aussi d'accepter de souffrir ou d'accepter d'être mal, là, à rebours d'une société qui nous interdit de dire qu'on va mal, qui nous interdit de souffrir, une société où on doit tous être en pleine forme et ne pas pleurer parce que ça se fait plus, quoi. Donc quand même, cette revendication d'un chagrin possible, c'est quand même intéressant, ça.
Oui, il ne s'agit pas de faire le procès de l'intensité, hein, il s'agit de faire le procès de l'usage de l'intensité et de l'injonction à l'intensification de toute chose dans la vie. L'intensité, c'est sans doute le plus bel idéal qu'on ait trouvé pour une vie électrique, justement. À partir du moment, tout simplement, où on a compris matériellement que notre excitation, elle était électrique, puisqu'on est des êtres nerveux. Et étant des êtres nerveux, on est traversé par l'électricité. C'est très beau de nous être, d'avoir compris qu'on était électrique. Mais le problème, c'est d'en faire une norme.
Voilà. Christine Lapédon.
Oui, le problème, c'est d'en faire une norme. Il y a une autre norme. Alors, j'aimerais savoir si, pour vous, c'est la même chose. C'est la norme et l'injonction de l'accélération. Ce matin, en arrivant, je voyais un panneau à la gare, absolument extraordinaire. Une urgence, accélérer. Est-ce que vous considérez que ce sont deux cousins germains, deux cousines germaines, l'accélération et l'intensité? Est-ce que c'est du même ordre?
Éric Libio, vous aviez également une question
oui,
sur ce sens.
La différence entre la vitesse et l'intensité, c'est vrai que Paul Virilio a conceptualisé la vitesse des sociétés, liée sans doute à la technologie dans les années 60-70. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette vitesse des réseaux sociaux, tout ça, il n'y a pas une confusion entre intensité et vitesse et qu'on se perd parfois à être trop vite alors qu'on devrait peut-être être plus intensément actif?
Il y a une différence dans la généalogie de ces concepts, c'est que la vitesse et l'accélération, ça vient de la mécanique générale, ça vient de la physique, donc c'est plus ancien. Et surtout, dès le début, c'est mesurable, c'est calculable, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est conçu pour pouvoir être mis en chiffres. Alors qu'il y a quelque chose d'un peu plus magique dans l'intensité, qui vient de la fascination européenne pour, vous savez, le courant électrique, avant d'en mesurer l'intensité, vous avez une trentaine d'années où on découvre qu'il y a du courant électrique, on ne sait pas très bien ce que c'est. On appelle ça un fluide subtil, on est fasciné, on a l'impression que c'est l'origine de la vie même. Hein. On pense que la vie est électrique, qu'il y a une première étincelle, il y a même une sorte d'interprétation, vous voyez, de
la vie. C'est Frankenstein, hein.
Voilà, exactement, ça donne
c'est
après,
Frankenstein, l'électricité.
Ça donne la fascination chez Marie Shelley ou chez beaucoup de romantiques. Et il y a quelque chose qui se teinte de magie dans l'intensité, alors que la vitesse ou l'accélération, c'est strictement des concepts qui sont faits pour être quantifiés, mesurés. Et c'est des concepts qui sont du côté de la rationalité, vraiment. C'est rationalisable, c'est mesurable. Alors que l'intensité, il y a une partie qui est rationnelle, parce que le courant électrique, on le voit, et puis on va apprendre à le mesurer, hein, jusqu'à Volta et tout ça. Mais il y a quelque chose qui semble échapper à la mesure, qui semble échapper au calcul. Et c'est cette part aussi mystique qui est importante. Alors que la vitesse et l'accélération n'ont pas cette part mystique. La vitesse et l'accélération, c'est des concepts, je dirais, d'ingénierie de nos sociétés. Hein, c'est une manière de concevoir la vie sociale
mais ça à la façon d'ingénieur. Ce que disait Virilio, ça induit des comportements sociaux, intimes, affectifs, qui sont liés à cette vitesse technologique et qui se reportent sur un comportement qui peut être moins mesurable aussi.
Oui, mais je crois, je me trompe peut-être, hein, mais je crois que la vitesse et l'accélération, d'ailleurs, quand on les emploie plus volontiers pour la société tout entière, l'impression d'un emballement, l'impression que la société va plus vite. Mmh. Alors que l'intensité, sa force, c'est qu'elle vaut à toutes les échelles. Mmh. On l'emploie aussi pour l'individu l'emploie pour essayer de qualifier ce qui se passe en lui,
oui,
vraiment.
L'effectivité.
Frédéric Schifter, en duplex de France Bleu Bayonne.
Oui. Moi, enfin, je crois que dans l'intensité, peut-être, y avait-il quelque chose qui relevait du romantisme aussi. Parce qu'au fond, le héros, quel que soit le héros littéraire, le héros mythique, le héros mythologique, etc., le héros même historique, on a l'impression que c'est un être qui est frappé par une grâce. On l'a choisi à un moment donné, le destin l'a choisi pour incarner une vie intense. Il a intensément défendu tel idéal, intensément défendu telle cause, intensément vécu pour tel ou tel, tel ou tel mystique, etc. J'ai l'impression que l'intensité, avant d'être tout ce que nous avons défini tout à fait justement d'ailleurs hein, maintenant, c'est aussi pointe aussi quelque chose qui relève d'une valeur esthétique, si vous voulez. C'est-à-dire que le héros, c'est celui à qui il est donné de pouvoir effectivement de pouvoir vivre une vie intense. Ce sont les mots de Fanny Ardant qui me faisaient penser à ça. Et alors, à contrario, j'ai l'impression que ce désir d'intensité vient peut-être, ce désir romantique d'intensité, vient peut-être d'une grande frustration. voyez. Je crois que on commence à rêver d'intensité lorsque l'on est en proie à une grande frustration. On est un raté, l'amour ne nous réussit pas, l'amitié non plus, le travail non plus, et on se retrouve face à une espèce de vie un peu morte, un peu terne comme ça, et on a des pulsions d'héroïsme, mais être héroïque en quoi, on se le demande. Alors effectivement, on se prend à rêver d'intensité, un peu vide, et l'intensité devient une sorte d'idéal sans objet, vous voyez, sans contenu vraiment. Alors, on se rabat sur les séries, parce que là, effectivement, il y a des gens qui semblent vivre avec intensité. Tous les héros des séries, se passent tellement de choses. Donc, et on se lance vers une vie par procuration. Et je me demande si ça ne fait pas aussi partie des méfaits de cet idéal d'intensité que de vivre par procuration. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Oui,
mais
très bien. Piaf, elle a envie de réagir. Oui, Piaf.
Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant, parce que du héros romantique de la littérature, en passant par le cinéma, qui quand même abreuve les gens de « vous pouvez avoir une vie exceptionnelle », jusqu'aux séries et jusqu'aux téléréalités, où des gens normaux deviennent du jour au lendemain des héros. En fait, est-ce que ce désir d'intensité vient pas aussi d'un désir que nos vies soient des fictions, soient des romans, comme on dit?
Oui, il y a une histoire des héros de l'intensité. Je crois que même quasiment à chaque siècle, on peut trouver une figure héroïque différente. Au XVIIIe siècle, l'homme intense, le premier homme électrique, c'est le libertin, avant le romantique. Le libertin, c'est l'homme de nerfs, hein, c'est celui qui expérimente sur ses nerfs et qui découvre que ses nerfs sont électriques, déjà. Et au XIXe, ça se déplace, comme il était dit, en effet, sur le romantique. Le romantique, c'est celui qui découvre que l'intensité, l'électricité, elle n'est pas seulement dans son corps, elle résonne avec la nature. Elle est dans la nature.
Oui, ça vibre.
Et c'est l'image de l'orage, chez Hugo, chez Byron, ou chez Chateaubriand. C'est-à-dire, la nature tout entière est intense, elle vibre, parce qu'elle est électrique, parce qu'elle est traversée par la foudre, etc. Et au XXe siècle, je crois qu'il y a un équivalent, qui est une figure démocratisée et rajeunie, d'un autre héros de l'intensité. Ça peut paraître étrange après le libertin et le romantique.
C'est le super-héros.
Non, je crois que c'est le rocker, en fait. Je crois que c'est le rock. Je crois que le rock, c'est l'électrification de la musique. Oui. C'est une électrification qui a permis la démocratisation de la musique. Et le geste fondamental à partir de Les Paul, de Les Paul sur la guitare électrique jusqu'à Hendrix.
C'est la brancher.
Mais bien sûr, c'est la brancher. Et c'est brancher non seulement l'instrument, la musique, mais c'est brancher son corps, ses hormones adolescentes sur l'électricité. Et c'est le faire passer de manière démocratique. Il suffit d'avoir vu une fois dans sa vie des images d'Hendrix pour comprendre ce que c'est qu'un héros électrique. Enfin, voilà, Et il est en quelque sorte, je crois, la continuation des expérimentations du libertin, puis du romantique. Et voilà, cette figure démocratisée, rajeunie.
Je me demande si le super-héros n'est pas le suivant.
Bien sûr, parce qu'il est souvent exposé. Alors le super-héros est exposé parfois au courant électrique, parfois à la radiation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ajoute au super-héros, c'est l'âge atomique en plus.
Une vie intense rend-elle forcément heureux? Élément de réponse avec les philosophes Tristan Garcia et Frédéric Schifter et avec la journaliste Christina Pelédouel.
Oh,
film noir, interprété La Mariée.
Grand bien vous fasse.
Ça a l'air chaud, votre affaire, là. Hein,
ouais, chaud. Tout est chaud ici, le café, les affaires et même l'emploi du temps.
Sur France Inter.
Une vie intense rend-elle forcément heureux ? Élément de réponse avec les philosophes Tristan Garcia et Frédéric Schifter et avec la journaliste Christina Pelédouel. Tiens Frédéric Schifter, vous qui avez pratiqué le surf, je vous propose d'écouter Joël de René, l'un des tout premiers surfeurs en France.
Mais nous, les surfeurs, le ride, comme on l'appelle, dure 15-20 secondes, parfois maximum. Dans une bonne session de surf de 2-3 heures, on va prendre 20-25 belles vagues, on va en rater autant d'ailleurs. Donc si vous additionnez le nombre de minutes, c'est très très peu, c'est 4, 5, 6, 7, 8 minutes de ride. Mais c'est l'intensité de l'instant. L'intensité de l'instant peut être une éternité. C'est ce que le grand sociologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle le flow. D'être dans le flow pour un chercheur, pour un surfeur, quelqu'un qui vit l'intensité, il sent plus le temps passer, il est dans une sorte d'éternité, il est dans le flow. Et je pense que la vie, c'est ça. C'est de trouver, pour donner du sens à sa vie, des successions d'intensité. Pas un long fleuve tranquille sur lequel on se laisse balader.
Joël de René parle de l'intensité de l'instant qui peut être une éternité, Frédéric Schifter.
Oui, alors d'abord, Joël de René, je tiens à le signaler, est un excellent surfeur et je n'ai absolument pas son niveau. Et l'intensité qu'il a pu ressentir en surfant, malheureusement, moi je ne l'ai jamais ressenti dans la mesure où je m'appliquais à rester debout sur ma planche. Et voilà. Mais il est vrai quand même que le plaisir que l'on ressent est un plaisir effectivement très fort. Alors, l'intensité... Je pense que cette intensité, elle, bien sûr, elle est ressentie à partir du moment où on est un excellent surfeur, où on n'a plus le problème de la technique de rester debout sur la planche, tout ça est déjà acquis, et on n'a plus que la sensation, finalement, à éprouver. Et je crois que Joël de René a parfaitement raison. Si je peux me permettre, je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit tout à l'heure. À propos du héros romantique dont la démocratisation a été signalée par Tristan Garcia, effectivement. Mais moi, je voudrais, alors tant pis, au risque de paraître un peu antidémagogique, mais il me semble que dans la crise des Gilets jaunes, je reviens là-dessus un peu, il me semble qu'il y a, tous les samedis, il y a un rendez-vous pris avec une sorte de hein, je parlais de la frustration tout à l'heure, on vient défiler le samedi dans la belle ville de Paris, on vient chercher des sensations, oui. D'accord, évidemment, et derrière tout ça, il y a une crise économique, il y a une misère sociale, il y a une détresse, etc. Mais le simple fait de venir manifester, etc., on vient chercher quelque chose qui sort de la routine qu'on dénonçait tout à l'heure. La révolte, au fond, c'est une recherche d'intensité. Une intensité que la vie ordinaire ne donne pas. Et parfois, ça peut aller jusqu'à la violence débridée, comme on a pu la voir. Et le Black Bloc, je pense, aussi se vit, je pense, comme quelqu'un qui veut vivre intensément, ça révolte. Alors c'est puéril, c'est crétin, c'est tout ce que vous voulez, mais je pense que ça fait aussi partie. Et je crois que le Black Bloc ne comprend pas qu'il est l'enfant de son époque, le petit enfant docile de son époque, quand il vient chercher de l'intensité en cassant tout.
Tristan Garcia.
Ce qui est intéressant, très rapidement, peut-être sur la question de la ritualisation, par exemple des samedis pour les Gilets jaunes, c'est que stratégiquement, ils vont se retrouver confrontés à la bonne vieille question de la routinisation de l'intensité. C'est-à-dire, à partir du moment où ça devient un rendez-vous attendu, on voit bien d'ailleurs que le pouvoir le craint un peu moins à partir du moment où c'est ritualisé, où il se crée une sorte de routine du samedi. Et donc, le problème stratégique qu'ils vont avoir, qu'ils commencent à avoir déjà, c'est de briser cette routine. On voit bien, personne ne peut imaginer un acte 42, 43, 45, sans voir que quelque chose de l'intensité des premiers samedis va se perdre.
Françoise nous dit, lors des grandes marées, j'ai passé 2 heures à regarder la mer descendre. Elle en met du temps à descendre, la mer. En apparence, je ne faisais rien et pourtant, j'ai vécu plein d'émotions. Frédéric Schifter, on peut contempler l'océan pendant de longues heures et ressentir des émotions très intenses.
Oh, je ne dirais pas ça. Je pense que l'océan inspire une contemplation vraiment... passive, pas dans un sens négatif ou péjoratif, mais c'est ce que Kant dit, ou même Schopenhauer, c'est-à-dire que on est face au sublime. Et le sublime, comme le rappelait Tristan Garcia tout à l'heure, c'est le sentiment que l'on est tellement petit par rapport à l'immensité de ce que l'on contemple. Alors, ce n'est pas forcément intense, hein, c'est pas ça, c'est la jouissance de pouvoir comprendre à quel point on est infiniment petit par rapport à l'infiniment grand. Et c'est un plaisir, c'est un grand plaisir, c'est un plaisir esthétique. Je ne parlerai pas d'intensité. Je pense que l'intensité, elle est plutôt dans l'action, moi, ou dans ce qu'on croit être l'action, en tout cas.
Tristan Garcia, l'inverse de l'intensité, c'est la tiédeur. La tiédeur qui est devenue, j'ai l'impression, dans nos sociétés, une chose assez indigne. Dans son livre sur la tiédeur, Philippe Garnier écrit que peut-on réserver à ce peu de désir, ce peu de conviction et d'appétit qui définit la tiédeur?
Oui, il le rappelle d'ailleurs, il y a une longue histoire de la critique de la tiédeur. Dieu vomit les tièdes, hein, déjà dans la Bible. La force de l'intensité, néanmoins, c'est que c'est un concept qui peut toujours s'appliquer au contraire qu'on lui oppose. Pour prendre un exemple très simple, il y a la tiédeur, il y a la médiocrité, qui au XIXe siècle sont présentés comme des attributs de la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle est tiède, elle est moyenne, elle est trop prudente, etc. Donc c'est le contraire de la vie intense, de la vie de la bohème. Mais on voit bien, par exemple, si on regarde l'histoire de la littérature, qu'il y a, je sais pas, de Flaubert à Houellebecq, il y a une histoire de l'intensification de la médiocrité elle-même. Et donc la force, mais en même temps la faiblesse de ce concept, c'est qu'il s'applique à ses propres contraires. Donc si vous lui opposez la tiédeur, vous pouvez imaginer une sorte de tiédeur intensifiée, dont je crois une part de la littérature française s'est faite l'histoire.
J'avais déjà un grand appétit pour la vie, pour le monde. Je ne crois pas du tout à l'illusion de la vie éternelle. Je n'ai rien à faire de l'au-delà. Je crois que nous avons une part de vie qui est contenue entre une naissance que nous n'avons pas voulu et une mort que nous ne maîtrisons pas. Et que tout ça est à la fois absurde et grandiose. Et que Jean Kelevitch a dit des choses en je ne sais quoi, elle presque rien, magnifiquement. Il faut se hâter. Et les morts nous le rappellent. Et la seule manière de se comporter dignement vis-à-vis d'eux n'est pas d'aller mettre des chrysanthèmes sur leur tombe, mais de vivre le plus intensément possible en pensant à eux.
Ce cher Sylvain Tesson sur France Musique chez Zaboublil en 2017. Peut-on vivre infiniment de façon intense, Tristan Garcia?
Non, ce qui est intéressant quand on réécoute l'extrait, donc je savais pas si c'était Sylvain Tesson, c'est qu'on voit bien que l'idéal d'intensité, il surgit en général à partir du moment où, et très souvent par laïcisation, elle le dit, parce qu'on ne croit plus au fait qu'il y a autre chose que ce qu'il y a, c'est-à-dire une vie, un corps qui naît et qui meurt. Si on se donne une vie qui naît et qui meurt et qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de croyance religieuse ou il n'y a pas de croyance philosophique qui permet de penser qu'on est destiné à autre chose que ce qu'on est ici et maintenant, ben je crois qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre idéal à se donner si on cherche la vie meilleure que mieux et plus de la même chose, c'est-à-dire mieux et plus de la vie qui nous est donné là. Donc ce qu'il y a de délicat dans le concept d'intensité, c'est qu'effectivement, il s'épuise de lui-même, et en même temps, si on ne croit pas à une autre vie, si on ne croit pas à un autre monde, on n'a pas d'autre idéal, en fait, de la vie. Et c'est pour cette raison qu'il faut être particulièrement délicat avec ce que, à mon sens, d'abord le capitalisme industriel, puis la société libérale, ont saccagé en s'en emparant comme d'un slogan pour construire et domestiquer les individus que nous sommes.
Les conséquences du toujours plus, d'une vie toujours plus intense, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est l'effondrement, le burn-out, la fatigue existentielle.
Ben, au fond, c'est assez simple. Il faut se représenter ce qui se passe dans un corps fini. Un corps, comme le disait Sylvain Tesson, qui a une naissance et qui a une mort, nous. Si dans un corps fini, vous mettez une idée infinie, et qui n'est pas une idée de Dieu, par exemple, mais qui est une idée quantitativement infinie, c'est-à-dire l'idée d'intensité, l'idée qu'il n'y a pas de fin à l'intensification, puisque vous avez fait plus, mais l'intensité, elle est hyperbolique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire plus la fois d'après, il faut faire plus que plus. Parce que si vous faites simplement plus, vous allez avoir le sentiment, vous savez, c'est comme le paradoxe de la Reine Rouge chez Lewis Carroll, qu'en fait, vous faites du surplace. Si vous augmentez régulièrement, vous allez avoir le sentiment que, en fait, vous êtes face à une droite. Donc il faut que ce soit hyperbolique. Si vous introduisez quelque chose, un sentiment hyperbolique, dans un être fini, ben, l'être fini, au bout d'un moment, il ne peut pas soutenir cette augmentation. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'effondre. Il s'écroule.
Frédéric Schifter, que faire face à cette injonction de l'intensité? C'est quoi? C'est la paresse, l'indolence?
La sieste.
La sieste, oui, j'allais vous le dire. Je lis dans la vos sieste, pensées.
Parce que les gens qui vivent une vie intense autour de vous, ils sont très fatigants, ils sont très ennuyeux. Et on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer chez soi, à l'abri, dans un havre de paix, où tout n'est que luxe, calme et volupté, et puis dormir. Et je rappelle que la sieste, c'est bien sûr apporte le repos, et que celui qui fait la sieste jouit de deux journées, en fait, parce que quand il se réveille, c'est un deuxième matin, si vous voulez. Donc c'est une éthique, hein. Il faudra un jour d'ailleurs que je m'attelle à un traité de la vie douillette, avec bien sûr un chapitre tout à fait particulier consacré à la sieste.
Et je vous invite d'ailleurs, au mois de juin, on consacrera une émission entière à la sieste.
Très bien.
Tristan Garcia, comment on fait pour résister à l'injonction de l'intensité?
Mais en fait,
quelle est votre position?
Vous avez utilisé ce qui me semble être le terme le plus juste, si on garde la métaphore de l'électricité. Qu'est-ce que vous faites devant un courant électrique? Ben, vous avez de la résistance, hein, pour le mesurer, tout simplement. Et je crois que, tout simplement, si vous voulez mesurer une intensité que vous pouvez soutenir dans votre corps, il faut être capable de résistance. Si un individu n'est pas capable de résistance, s'il n'a pas cette valeur-là, alors l'intensité ou les intensités de la vie vont filer à travers lui, vont le mener à l'effondrement, et surtout, il va plus être capable de les éprouver. Pour éprouver encore des intensités, il faut être capable de résister.
Christine Lapelle-Edouard.
Il faut être capable de résister, il faut être capable de se détacher aussi, je pense, de l'intensité, de prendre du recul par rapport à l'intensité, de pouvoir se poser, et non pas dans un but marchand, comme ce qu'on a dit, la récupération, par exemple, de la méditation dans les entreprises pour rendre les gens encore plus efficients, etc., mais dans un véritable retrait, et qui peut passer, par exemple, par la lecture, par la contemplation, on en a parlé tout à l'heure, la contemplation de la mer, par les émotions esthétiques qui ne sont pas de l'ordre de l'intensité, bien qu'elles puissent en être aussi, et par peut-être la réflexion, tout simplement la réflexion, le temps de pause et de retour sur, par exemple, les expériences d'intensité, sur une tentative d'analyse de ce qu'on a pu avoir vécu. Et puis alors, on n'a pas abordé cette question, mais peut-être ça nous embarquera trop loin, la question de l'amour quand même, qui est une question centrale, parce que est-ce qu'on peut dire que l'amour est toujours uniquement valable s'il est intense? C'est quand même une question fondamentale.
Et ce sera l'objet d'une autre émission, ma chère Priscilla Pelé-Louel.
Je viendrai.
La vie intense, une obsession moderne, c'est signé Tristan Garcia et disponible en poche autrement. Merci beaucoup Tristan Garcia. Merci Frédéric Schifter. Depuis France Bleu Bayonne, on peut lire avec profit votre dictionnaire chic de philosophie, disponible chez Écriture. Et merci Priscilla Pelé-Louel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Inter.